Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, en 2026, l'agriculture se trouve à la croisée des chemins. Elle doit nourrir une population mondiale, toujours plus nombreuse, tout en faisant face à l'urgence climatique, à la raréfaction de l'eau et à la pression sur les sols. Dans ce contexte, la responsabilité sociétale des entreprises et les politiques agricoles ne peuvent plus avancer en parallèle. Elles doivent désormais se répondre, se renforcer aussi parfois se réinventer. La question n'est plus de savoir s'il faut produire davantage, mais comment produire mieux, de manière durable, équitable et résiliente, entre ambition climatique, souveraineté alimentaire et justice sociale. 2026 apparaît comme une année charnière pour redéfinir le contrat entre agriculture, économie et société. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec notre expert en agriculture, M. Kamal Aberkani, qui va aujourd'hui nous permettre d'avoir une certaine notion et aussi quelques éclairages par rapport à cette thématique du jour. Bonjour à vous, M. Aberkani.
Bonjour, bonjour monsieur, merci pour l'invitation et merci à Médien.
Alors monsieur Aberkani, la RSE est-elle devenue en 2026 un pilier structurant des politiques agricoles ou reste-t-elle toujours un cadre volontaire sans réelle contrainte?
Oui, bien sûr, la RSE, c'est, moi je peux dire, c'est une nouvelle norme, pas une nouvelle norme, mais voilà, c'est nouveau ça, c'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est en général, mais dans le secteur agricole, bien sûr, ça reste pour le moment, pour répondre à la question, c'est volontaire, il n'y a pas vraiment d'exigence ou voilà de responsabilité, c'est une responsabilité volontaire. Alors, bien sûr, en 2026, voilà, avec tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est voilà, les inflations économiques au niveau international, la pression du marché, les exigences du consommateur. Donc, c'est vrai que les entreprises y font des profits dans un secteur, par exemple le secteur agricole, mais maintenant, il y a plus de pression. Donc, il ne faut pas que travailler l'économie ou l'argent ou avoir plus de bénéfices, parce que si jamais on produit, je ne sais pas, un kilo de tomates, bien sûr, il a un effet sur l'environnement, sur la santé, sur la société. Donc maintenant, on n'est plus là pour produire, pour faire des profits. Il faut penser à la société, ou, voilà, il faut penser à l'environnement socio-économique. Alors je pense à partir de 2028, il y a déjà des entreprises dans le monde, et même voilà, au niveau africain, qui ont commencé à avoir cette RSE. Pour le moment, à mon avis, moi je pense que ça reste voilà, une initiative volontaire, mais je pense dans l'avenir, d'ici une dizaine d'années, ça va être une obligation, pourquoi pas, parce qu'il faut quand même contrôler la production afin d'avoir une production durable et résiliente voilà, au changement climatique.
Et justement, dans le cadre de contrôler, comment concilier d'ailleurs les objectifs de décarbonation avec l'urgence de la sécurité alimentaire, notamment en Afrique également et aussi dans les pays du Sud?
Alors voilà, donc le carbone, c'est l'actualité. On parle de 2026. Comme moi, je peux dire, c'est pas un vrai départ, c'est pas un départ, mais c'est un vrai départ, surtout pour les pays africains. Et on a vu voilà lors des rencontres, soit des COP ou bien de Davos ou bien les grandes rencontres internationales, que le carbone fait partie de first headline ou le premier titre. Pourquoi? Parce qu'on sait que maintenant on est en train de polluer et on est en train de mettre plus de carbone. Et lorsqu'on parle de l'agriculture, bien sûr, l'agriculture est un secteur, parce que lorsqu'on parle du carbone, on pense à l'industrie directement. Non, c'est le contraire. L'agriculture aussi, il émet beaucoup de carbone. Il y a des bonnes pratiques agricoles afin d'atténuer le carbone. Je pense qu'il y a une politique, soit au niveau national, au niveau du Maroc, même au niveau africain, afin d'atténuer le plus possible la grande quantité de carbone possible. Pourquoi? Parce que soit pour réduire les émissions à effet de serre et pour vendre ce carbone. Parce qu'on a vu, dans quelques exemples, quelques entreprises au niveau africain, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partir chez les producteurs, ils vont dire, bah, écoutez, vous allez faire ces bonnes pratiques agricoles comme le semis direct des céréales, par exemple, ou bien utiliser quel type d'arbres, pourquoi? Parce qu'on sait que ces pratiques agricoles ou de forestation, ils vont diminuer le carbone. À ce moment-là, vous allez gagner des crédits carbone. Donc ça peut être pas comme une exigence pour réduire le carbone, mais ça peut être aussi une source d'argent, soit pour l'agriculteur ou bien pour, voilà, pour les institutions.
Pour les institutions, d'abord, quand on parle d'institutions, il y a aussi cette politique agricole actuelle qui encourage plutôt cette politique agricole dans cette dynamique. On se demande comment elle encourage suffisamment les pratiques agroécologiques et la gestion durable des sols, mais aussi de l'eau.
Bien sûr, maintenant on n'est plus en train de penser à renforcer la production. Je pense que à un moment donné, il y a 40 à 50 ans, avec la révolution industrielle, on a produit des engrais, des pesticides. Pourquoi? Parce qu'on voulait augmenter la production agricole, parce qu'il y a plus pour satisfaire la demande internationale et même pour avoir des profits. Mais maintenant on est comme dans une situation de conflit d'intérêts, parce qu'il y a l'environnement, il y a la société, il y a l'effet de la santé, on a eu des problèmes à cause de ça. Donc là, on est obligé d'atténuer ces effets. On a vu les modèles de pesticides, par exemple, il y a une dizaine d'années, par exemple, dans le cas du Maroc, on a eu des cahiers de charges pour l'exportation de fruits et légumes. Alors, je pense qu'il y a eu un respect en termes de pesticides, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus cette matière active, donc il y a une certaine traçabilité. Je pense que, soit pour le modèle marocain ou le modèle africain, on a réussi quand même à s'en sortir pour question de pesticides. Maintenant, c'est le moment pour le carbone. Alors, au lieu, par exemple, de vendre une tomate, qui consomme de l'énergie fossile, on utilise pour le chauffage, pour l'irrigation du gaz naturel ou du gasoil pour l'irrigation, alors je pense que le produit il ne va pas être apprécié sur le marché. Par contre, si on utilise de l'énergie solaire ou de l'énergie renouvelable ou des engrais naturels, parce que cet engrais-là, il vient d'une industrie qui utilise les énergies renouvelables. Donc à ce moment-là, le produit il va être mieux apprécié sur le marché international. Et ça, on appelle ça l'empreinte carbone. Parce que maintenant, l'empreinte carbone, c'est très important. Je pense qu'en l'avenir, il va y avoir un cahier de charge au niveau international. Il va y avoir des exigences. On ne produit plus de produits qui vont émettre plus de carbone. Et on ne parle pas que des produits de la fourche à la fourchette. On parle même de tous les services qui sont connectés. Même le plastique qu'on va utiliser comme paillage pour la tomate ou bien pour la production, si ce plastique, dans le procédé de fabrication, il va émettre plus de carbone, alors on ne va pas l'utiliser. On va utiliser l'autre produit, même si le produit est plus cher. Parce qu'ici, on parle du nouveau modèle, on appelle ça le print for carbon.
Le print for carbon, et quel rôle jouent réellement les grandes entreprises agroalimentaires dans la transformation durable des chaînes de ces valeurs agricoles?
Alors, pour les chaînes agroalimentaires, bien sûr, parce que normalement, il faut savoir que, par exemple, dans le domaine agricole, on a de la fourche à la fourchette. Il est le producteur qui va produire. Par exemple, je prends l'exemple de la tomate. On produit une tomate, donc il y a des compagnies qui vont faire les semences, des engrais, des pesticides, du goutte à goutte, etc. Il y a toute une industrie dans ces services-là. Il y a la chaîne agroalimentaire de transformation, ou bien de la mise au marché. Donc ici, on voit l'intervention du secteur agroalimentaire ou des entreprises. Alors, comme je disais au départ, maintenant, les entreprises ne vont plus faire le profit, c'est-à-dire un profit économique. Il faut vraiment, moi je pense que ça ne va pas être juste volontaire comme ça. Moi je ne suis pas d'accord avec le terme volontaire. Je pense qu'il y a un cahier de charge qui va être appliqué pour ces entreprises-là, pour faire de RSE, c'est-à-dire de la responsabilité sociale pour des entreprises. C'est-à-dire, même si on fait du profil, il faut penser à l'environnement socio-économique, il faut collaborer avec les stakeholders, on appelle ça les parties prenantes. Donc il faut voir, est-ce que mon entreprise il va avoir un effet positif sur l'environnement socio-économique ou pas. Et aussi, est-ce que le produit que je vais avoir, est-ce que ça pollue? Ça ne pollue pas. Donc maintenant, dans la règle ou bien dans l'équation, il n'y a plus la formule argent. Il y a plus le profit résilience au changement climatique. Est-ce que je vais utiliser, par exemple, je vais acheter des céréales ou des légumes et les fruits qui consomment plus d'eau? Non, moi, je ne peux pas l'acheter parce que ça consomme plus d'eau, même si je vais faire des profits. Donc, il y a toutes les exigences qui vont être appliquées pour les entreprises, parce que l'entreprise, il va vendre, bien sûr. Et lorsqu'on vend, Si le marché il est exigeant pour, par exemple, pour le print carbone ou le print pesticide, donc à ce moment-là, les entreprises, il faut qu'ils suivent cette chaîne-là. C'est très important. Et parce qu'il y a un cahier de charge au niveau international qui se fait. Au niveau africain, je ne sais pas, peut-être, on va dire, peut-être il y a un petit décalage entre l'Europe et l'Asie avec l'Afrique, mais ça va venir dans le futur, parce qu'il faut savoir que l'Afrique, quand même, est un des grands continents agricoles dans le monde, et les pays africains, ils font beaucoup d'exportations, et sûrement que ces exigences des entreprises qui achètent des produits africains, ils vont être soumis à ce genre de lois ou de politiques d'achat ou politiques d'intervention dans le secteur agricole.
Et justement, par rapport à la RSE, aujourd'hui, permet-elle une meilleure inclusion des petits exploitants et également des femmes dans les politiques agricoles de 2026, selon vous ?
Ah ben oui, donc pour la question de femmes, donc l'égalité, l'approche genre, c'est très important. Maintenant, dans tous les... moi, je peux dire, il n'y a pas que le domaine de l'agroalimentaire. C'est vraiment l'approche genre, c'est très important. Il faut intégrer, par exemple, dans un secteur, dans l'industrie, par exemple, de betterave à sucre, qui se trouve dans un environnement, par exemple, on a 80%, 70% de femmes et 30% d'hommes. Donc, il faut intégrer tout le monde dans l'approche. Même si ces femmes, elles ne peuvent pas faire le travail de terrain, mais il faut donner des services. Donc, il faut avoir un impact socio-économique. Et bien sûr, lorsque, par exemple, une entreprise s'installe, comme la betterave à sucre ou je ne sais pas d'autres, j'ai dit juste un exemple, vraiment il ne faut pas avoir des employés d'ailleurs, il faut vraiment ça ce sont des exigences de faire l'impact, il faut avoir un impact socio-économique et je pense qu'il y a des audits, il y a des évaluateurs qui font ce genre d'approche pour les entreprises. Et ça, c'est pas que dans le secteur agroalimentaire, c'est dans tous les secteurs. Bien sûr, ça, c'est très important de penser aux stakeholders, comme je disais tout à l'heure, c'est la partie prenante. Il faut prendre en considération pas combien j'ai vendu tant que produit ou bien combien j'ai produit. Il faut savoir dans cette équation, c'est quoi mon impact ou bien l'impact de ce projet-là dans telle région, l'impact socio-économique qu'il va avoir.
Et par rapport à cet impact socio-économique, on vient de parler également de l'orientation, mais aussi du rôle des femmes dans cette politique RSE. Il est également nécessaire d'avoir aussi votre avis par rapport aujourd'hui à certaines réalités, comme vous le savez aujourd'hui, concernant les mécanismes de financement vert et des subventions agricoles. Sont-ils alignés avec les engagements RSE et climatiques ?
Oui, bien sûr. Pour le financement, il est là. On va dire, est-ce que ce financement, c'est assez ? Ça, c'est une question un peu, je pense, difficile à répondre. Mais il y a le financement vert. On a entendu parler depuis une dizaine d'années. Pour soutenir les projets. Alors, pour la RSE, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pour le moment en Afrique, je crois, elle est plus volontaire. Est-ce qu'il y a un alignement ? À court terme, je ne pense pas, mais je pense à moyen et à long terme, il peut y avoir un alignement si on va avoir une feuille de route assez précise, c'est-à-dire il faut savoir qu'est-ce qu'on finance, où on finance, et bien sûr, quel est le livrable, parce que c'est très important. Même si on finance une action verte, on finance, on reçoit l'argent, mais à la fin, on n'a pas de feedback, on n'a pas de résultat. Donc, il faut savoir exactement faire une étude ou bien une feuille de route, quels sont les projets qui sont très importants à financer et qui vont avoir un livrable en termes d'économie verte ou bien d'agriculture résiliente au changement climatique. Je peux financer par exemple le solaire pour le pompage de l'eau de la nappe phréatique parce que c'est une solution verte, mais à un moment donné, je vais pomper plus d'eau. Donc je vais perdre ma nappe phréatique. Donc ça, c'est pas un livrable. Donc il faut faire vraiment une étude. Qu'est-ce qui est attendu? Ça, c'est très important. Mais pour le moment, comme je disais, pour répondre à la question, c'est vrai, je pense l'action RSE, on est toujours volontaire, mais il faut savoir quels sont les sujets ou bien les topics qui sont un grand intérêt où on peut subventionner et peut avoir un effet. Mais je pense dans le futur, cette RSE, il va être obligatoire. Et si vous permettez, je vais ouvrir parenthèse, surtout pour la recherche scientifique. Ça, c'est très important. Parce qu'on sait dans les pays nordiques, l'Europe, l'Amérique du Nord et même en Asie, les entreprises y participent beaucoup dans les projets de recherche appliqués. Et là, je parle de l'agriculture parce que c'est ma spécialité. L'entreprise, l'État, il va dire oui, bah, écoutez, au lieu de vous payer 40% d'impôts, bah, à ce moment-là, vous allez payer 20%, 30% d'impôts, à condition que vous allez avoir un sujet de recherche, vous allez intégrer les institutions de recherche, les étudiants, les stakeholders, les producteurs, pour une thématique connue. Par exemple, essayer d'avoir des semences importées au lieu que vous vendez des semences de céréales qui ont un cycle plus long, avoir de tester des semences à cycle court qui consomment moins d'eau. Ça, c'est important parce que ça va donner des résultats pour les entreprises et ça va donner des résultats aussi pour, parce que l'entreprise, il paye les impôts, mais il va tester un nouveau produit et en même temps, on va faire travailler voilà, les étudiants, avoir de la recherche, etc. Donc ça, je pense que c'est très important et ça rentre dans la RSE. Par exemple, avec mon expérience au Maroc, en Afrique, c'est vrai, il y a certaines entreprises qui vont le faire, mais ça, c'est volontaire. Et peut-être sur 100 entreprises, on va avoir une dizaine qui vont le faire. Mais si on a une subvention qui est des États, des institutions étatiques, qui va dire, bah, écoutez, on va vous encourager à faire ça, bah, soyez sûr que si 100 entreprises, ils vont tous le faire. Donc c'est très important de voilà, il y a pas que la sensibilisation, il faut passer à l'action.
Tout à fait. Et passer à l'action, justement, quel équilibre trouver entre la souveraineté alimentaire nationale et les exigences environnementales mondiales ?
Alors, bien sûr, pour la souveraineté alimentaire marocaine ou bien la souveraineté alimentaire africaine, parce que quand même le Maroc, bon, il fait partie du continent africain. Et je pense qu'il y a un grand lien entre les pays africains en termes de, voilà, de la solidarité. Moi, j'appelle ça je donne un autre terme personnellement, c'est la solidarité alimentaire. Parce que c'est vrai, j'importe, j'exporte en Côte d'Ivoire ou au Kenya ou au Sénégal et j'importe aussi des produits. Donc ça rentre dans l'alliance alimentaire. Je pense au niveau national, le Maroc il a joué un grand rôle dans le développement agricole et on l'a vu durant les deux programmes de Maroc Vert et voilà le programme aussi de Green Generation. Et on a vu avec la foire de Meknès, je pense 6e ou 17e édition, avec une réussite. Et on a vu beaucoup d'intervenants au niveau international et même au niveau africain. Et ça reflète vraiment l'importance du Maroc pour la souveraineté alimentaire internationale. Et comme je disais, le Maroc il est en train de travailler un modèle africain avec les pays africains, d'avoir une alliance agricole de souveraineté alimentaire. C'est pas question de s'isoler, non, c'est le contraire, c'est d'avoir voilà, un poids agricole au niveau africain qui travaille aussi avec les autres continents, l'Amérique ou l'Asie ou l'Europe, afin d'échanger. Parce que c'est vrai, en Afrique, peut-être on a de la sécheresse, on ne peut pas produire des céréales, mais on peut importer de l'Allemagne, on peut importer de la Russie, des États-Unis. Mais par contre, nous, on peut produire des fruits et légumes, on va envoyer. Et ça, c'est toujours, pour revenir à la première question, à l'empreinte carbone. Il faut avoir le minimum de carbone émis. Et je pense que dans la recette internationale pour le carbone, c'est vrai, il y a certains pays qui sont, entre guillemets, je n'aime pas dire ce terme-là, des pays pollueurs qui peuvent acheter, par exemple, des crédits carbone de l'Afrique et vice-versa. Donc une alliance alimentaire et économique internationale.
Et justement, pour faire le point sur cette actualité RSE, nous allons suivre le point de tout ce qui s'est fait ou tout ce qui s'est dit ou tout ce qui se prépare pendant cette année 2026, notamment pendant cette semaine. Tout de suite, l'actu RSE avant de revenir avec notre invité qui est M. Kamal Aberkani.
En ce mois de janvier 2026, la responsabilité sociétale des entreprises s'impose plus que jamais comme un levier d'action concret en Afrique comme dans le reste du monde. Sur le continent africain, la RSE se décline d'abord au plus près des territoires. Des forums et rencontres dédiés à l'économie sociale et solidaire mettent en avant l'inclusion, l'emploi et la transition écologique comme priorité partagée. Dans plusieurs pays, des entreprises renforcent leurs engagements communautaires, notamment à travers l'éducation, la jeunesse et la santé, confirmant que la RSE ne se limite plus à l'environnement, mais touche aussi le social. à Rabat, un symposium consacré à la RSE, à l'innovation et à la santé réunit ce mois-ci décideurs publics et acteurs privés, signe d'une volonté croissante d'intégrer la responsabilité sociale au cœur des politiques de développement. À l'échelle mondiale, la dynamique s'accélère, de grandes entreprises annoncent le recours accru aux énergies renouvelables, tandis que des initiatives internationales cherchent à mieux aligner performance économique et critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Certains États encouragent désormais les entreprises à orienter leur budget RSE vers la formation et le développement des compétences, un enjeu clé pour l'avenir de l'emploi. Janvier 2026 confirme une tendance forte. La RSE n'est plus un discours d'intention, mais un outil stratégique au croisement du social, de l'économie et du climat déjà en marche.
De retour avec notre invité, M. Barkhane. Justement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, en 2026, pour conclure, la RSE peut-elle devenir un véritable moteur de transformation agricole ou doit-elle être repensée pour gagner en efficacité et en crédibilité ?
Oui, bien sûr, la RSE, je pense que c'est une initiative volontaire pour le moment, mais comme je disais tout à l'heure, la RSE, il va avoir un impact pour les années qui viennent. Il faut savoir, juste revenant pour le plan Maroc vert, on a eu le plan Maroc vert de 2008 jusqu'à 2018 et maintenant on a le Green Generation qui va se terminer en 2030 et sûrement, tant que spécialiste en sciences de l'agriculture, il va avoir d'autres programmes et sûrement on estime d'avoir un autre programme que la RSE peut-être il va être un des grands piliers. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va se diriger vers une agriculture résiliente au changement climatique, soit en termes de sécheresse ou bien des inondations. Et je pense maintenant, les entreprises, ils ne travaillent plus seuls. Le producteur, il ne travaille plus seul. Donc, je pense qu'on fait partie, c'est comme une équipe de football. Tout le monde a un rôle pour produire ce kilo-là de tomates. Je pense qu'il y a plusieurs intervenants, mais il faut que un kilo de tomates, il va être plus durable. Je pense avec le temps, ça va être volontaire, jusqu'à on va avoir 30% d'intervenants qui vont utiliser la RSE. Mais à un moment donné, je pense que ça va être mandatory ou obligatoire parce qu'on n'a pas le choix et on ne peut pas vendre un produit si on n'a pas l'approche RSE. C'est très important.
C'est très important et merci encore M. Kamel Abarkhane pour cette perspective de relation entre RSE mais aussi dans la politique agricole actuelle concernant tous les pays du monde, notamment du Maroc, de l'Afrique, mais aussi une orientation qui vise aujourd'hui à joindre deux orientations qui permettent à ce pays et à ce monde d'avancer. Merci encore d'avoir été notre invité aujourd'hui dans notre émission Planète Business.
Merci à vous.
Merci à vous pour cette confiance renouvelée dans votre émission Planète Business. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro.